La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et l'on retrouve Luc Ferry comme chaque lundi, esprit libre de cette matinale à 8h40, passé de 2 minutes. Bonjour Luc Ferry.
Bonjour David.
Un fiché S naturalisé français converti à l'islam radical, condamné, ayant purgé sa peine, libéré, faisant l'objet d'un suivi médical et psychologique. La conclusion de tout cela, c'est qu'il n'y a pas de faille, c'est qu'il n'y a pas de maille du filet assez serré. Que faire ?
Écoutez, il y a une solution simple, hein, c'est ce que tous les policiers de France vous diront si vous leur demandez, c'est de s'occuper seulement des fichiers S français, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas expulser, ce qui supposerait que on expulse ceux qui sont fichiers S étrangers. Et parce que sinon, ce que vous disent les policiers, moi je parle souvent avec eux et j'ai beaucoup de respect pour eux, ce que disent les policiers, c'est qu'il y a trop de fichiers S, il y en a 5000 en France pour qu'on puisse surveiller tout le monde. Et s'ils n'avaient pas à surveiller les fichiers S étrangers, même mon ami Danny Cohn-Bendit est d'accord avec ça.
Même si, imaginons qu'on renvoie tous les fichiers S étrangers leur pays, à condition d'ailleurs d'avoir la coopération de ces pays.
Ça on l'obtient de force.
Ils ne sont pas toujours très coopératifs.
Mais on leur tord le bras, je peux vous dire.
Admettons qu'on le fasse, est-ce qu'on a les moyens de surveiller 5000 fichiers S français ?
Non, il n'y en a pas 5000. Il y a en tout 5000 fichiers S en France. Donc si vous supprimez en gros 3500 ou 4000 fichiers S étrangers, même il y en a probablement un peu plus que ça, vous arrivez à un chiffre à peu près plausible. C'est-à-dire que il faudrait quelques milliers de policiers pour surveiller les fichiers S français. Donc c'est une première mesure. Au moins, elle a le mérite d'être extrêmement concrète. Et c'est une première mesure. Tout ce que disent les policiers, tous les policiers vous le diront, il y a trop de fichiers S pour qu'on puisse tous les surveiller. Et puis il faudrait modifier la loi pour que les fichiers S français, donc ceux-là, soient obligés d'aller 3 fois par jour pointer au commissariat. Quant à l'idée de l'injonction de soins, c'est une absurdité. On ne soigne pas l'islamisme, ce n'est pas une maladie.
Un expert d'ailleurs déclarait dans un des journaux de la matinale qu'il ne fallait pas s'illusionner.
Ben
la plupart de ceux qui passent à l'acte ne sont pas des malades mentaux.
Non, mais en plus, encore une fois, même les grands psychotiques ou les grands schizophrènes, pardon de le dire, moi j'ai fait une maîtrise de psychologie clinique, donc c'est des choses. La première chose que nous expliquaient les psychiatres, c'est qu'on ne guérit pas les grandes psychoses. De toute façon, ça ne se guérit pas. Il n'y a pas de soin. Donc, on les soigne avec des médicaments. C'est-à-dire qu'on calme les gens. C'est-à-dire, en fait, les médicaments, c'est une espèce de castration chimique. Voilà. Mais on ne soigne pas. On soigne très difficilement les névroses obsessionnelles, mais les grandes psychoses, on les soigne pas. On les calme. Et de toute façon, encore une fois, l'islamisme n'est pas une maladie mentale. Donc, c'est pas. Ou alors, si on peut considérer que c'est une maladie mentale, mais dans ce cas-là, le nazisme aussi, le communisme aussi, enfin, dans ce cas-là, tout le monde est malade. Donc,
c'est
ça ne soigne pas et c'est contagieux. Voilà, donc cette idée d'injonction de soins est une fausse bonne idée. En revanche, l'obligation de bracelet électronique et de pointer 3 fois par jour au commissariat, oui, ça limite les dégâts. Rien n'est parfait, il y aura toujours des trous dans la raquette. Mais là, si les policiers n'avaient à surveiller que des fichiers S français, ce serait déjà beaucoup, beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace pour eux.
Est-ce que vous dites la même chose de la déradicalisation ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se déradicaliser quand on a fait ce parcours ? Vous pensez que on est mal vacciné à vie, si j'ose dire ?
Je dirais pas ça. Mais quelqu'un peut-être évoluer par lui-même, peut-être changer en vieillissant, par exemple, et comprendre que même si il peut par exemple passer de l'islamisme à l'islam, il peut devenir un musulman modéré. Bon, et ça c'est tout à fait possible, mais il le fera lui-même. Mais il n'y a pas de procédure de déradicalisation. C'est une blague. C'est une plaisanterie. C'est comme soigner l'islamisme ou soigner les grandes paranoïas ou les grandes schizophrénies. C'est pas vrai. Encore une fois, on a des médicaments qui calment, mais c'est pas des soins à proprement parler. Et donc, on s'illusionne quand on parle de déradicalisation. C'est pas vrai. Et donc, les deux questions que pose ce cas-là, un, pourquoi a-t-il été naturalisé français ? Donc ça, c'est la première question. Loi sur l'immigration, peut-être. Et puis la deuxième question, c'est faire en sorte que les policiers puissent surveiller les fichiers S français, c'est déjà suffisamment difficile pour eux, et ça suppose qu'on leur enlève le poids des fichiers S étrangers, et qu'on leur dise, écoutez, vous êtes, votre vision du monde, c'est l'islamisme radical, allez la pratiquer ailleurs, allez la pratiquer chez vous. Et on tord le bras aux pays qui ne veulent pas les récupérer parce qu'on a les moyens de le faire.
Luc Ferry, notre invité de la matinale, l'imam Chalgouni, disait, si la France n'est pas capable de bâtir l'organisation qui permette un islam des Lumières, je ne vois pas quel pays pourra le faire.
Il a raison, parce que lui, c'est un militant de la laïcité, c'est un homme, vraiment, on peut dire des Lumières, c'est un homme extraordinairement courageux. Moi, j'ai une immense amitié et sympathie pour lui, estime pour lui. Et c'est vrai que cet homme, il est l'incarnation de ce que on voudrait que, au fond, et c'est d'ailleurs, d'une certaine manière, ce que sont 90% des musulmans français. Moi, ma nounou, elle est musulmane, le fin fond de son cœur et de son cerveau est musulman, c'est l'être le plus gentil de la planète.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a en ce moment une parodie de l'émission de Pascal Praud. Oui, on peut tout parodier, on peut tout caricaturer, mais l'imam Chalgoumi fait beaucoup ricaner, et je n'aime pas ce ricanement.
D'autant qu'il est menacé de mort en permanence, il est protégé par la police en permanence, donc je vois pas ce que ça a de drôle, oui. Les gens qui font ça sont des salauds, c'est tout, ça porte un nom, salaud.
Le député Renaissance a accusé le Rassemblement National, Luc Ferry, d'être la vitrine policée de l'ultra-droite. Est-ce une stratégie efficace que de ressortir les méthodes accusatrices qui ont si peu profité à la gauche, mais qu'elle a pratiquées ces 40 dernières années?
Disons les choses, c'est une vraie connerie. Voilà, il faut le dire les choses. C'est une vraie connerie, parce qu'on le voit bien avec Madame Meloni en Italie, on peut ne pas aimer son programme, on peut être en désaccord avec elle sur tel ou tel point, mais c'est la même chose avec Marine Le Pen, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite, rien à voir. Voilà, donc qui est à l'origine du Front National, des pères fondateurs d'extrême droite, c'est une évidence, et je suis le premier à le reconnaître, et d'ailleurs, y compris Jean-Marie Le Pen, le premier. Mais c'est pas le cas du Rassemblement National aujourd'hui, et certainement pas de Marine Le Pen, qui n'est ni antisémite ni raciste, qui ne veut pas assassiner les opposants, comme le faisait l'extrême droite depuis toujours, et qui ne veut pas prendre le pouvoir par les armes. Donc, c'est parler d'extrême droite, qu'on parle de droite dure, de droite nationaliste, de droite populiste, si on veut, d'accord.
Mais qui n'a pas désavoué des compagnons de route qu'on appelle Gudard, identitaires. Elle est restée fidèle en amitié.
Elle a désavoué le principal, c'est-à-dire son père, et précisément sur la question de l'antisémitisme. Et je vous rappellerai qu'elle a toujours défendu la loi Veil, la loi donc sur ce qui autorise l'avortement, qui était considérée comme, par tous les antisémites d'extrême droite, comme le modèle même de la tueuse d'enfants. Voilà, c'est comme ça qu'on parlait, y compris dans certaines écoles catholiques. Il faut quand même se souvenir de ça. Et donc, quand quelqu'un prend le parti de Madame Veil, c'est difficile de l'accuser d'antisémitisme ou de racisme d'extrême droitisme, si je puis dire. Donc c'est pas le cas. Moi, encore une fois, je ne voterai pas Marine Le Pen, je soutiendrai David Lisnard, je soutiendrai Wauquiez, je soutiendrai Xavier Bertrand. Donc moi, ma tradition, c'est le gaullisme. Mais simplement, mal nommer les choses, je vais pas reprendre la phrase de Camus, c'est un bateau, mais mal nommer les choses ne sert à rien. Donc, et en plus, cette stratégie de diabolisation du Rassemblement National n'a jamais fonctionné, ça l'a toujours fait marcher. Quand vous arrivez avec un électorat qui a 42% et que les mecs vous les traitez d'extrême droite, de racisme et d'antisémitisme, et ça, à la limite, vous allez les rendre racistes. Parce qu'ils pensent, si, puisque je suis raciste, autant y aller.
Ces dernières années, d'ailleurs, la gauche et l'extrême gauche ont beaucoup pratiqué en guise de programme la chasse à l'extrême droite. Ça leur a pas profité.
Ah, pas vraiment, non. Et d'ailleurs, pour beaucoup de gens, y compris à gauche, considèrent que Mélenchon est bien plus dangereux que Marine Le Pen. D'ailleurs, je suis sûr que c'est ce que vous pensez. Et moi, en tout cas, c'est ce que je pense.
Moi, ce que je pense, ça n'intéresse personne. L'impact de ce qui s'est passé hier ce qui s'est passé samedi sur le débat et le vote de la loi immigration. Est-ce que cet attentat, cet assassinat peut avoir des répercussions sur cette loi et malmener à la fois son examen et puis son vote?
Oui, parce que là, il est évident que toute la droite, qu'elle soit dure ou pas dure, qu'elle soit Rassemblement National ou LR, elle va évidemment en profiter pour, à juste titre, moi c'est ce que je pense. Je n'aime pas l'article 3, pour être franc. C'est-à-dire, je trouve que cet article 3 est une véritable honte, parce que c'est à la fois une honte sur le plan social, je dirais, puisque ça revient à dire aux chefs d'entreprise, on va vous donner de la main-d'œuvre étrangère, comme ça vous n'aurez pas à faire un effort pour intégrer les Français, pour les payer mieux ou les traiter mieux. Donc je trouve que c'est vraiment pas... Pourtant, je suis pas de gauche, mais là, franchement, je trouve que c'est pas une loi de gauche, pour le coup.
Mais je suis pas sûr qu'il y a énormément de Français qui veulent parcourir les rues de France à vélo pour livrer des McDonald's.
Dans ce cas-là, il n'y a qu'à les payer plus cher, mon ami. Et puis, c'est pas les livreurs à vélo qui font problème aujourd'hui. Quand on parle des métiers en tension, c'est pas les livreurs à vélo, c'est pas vrai. D'ailleurs, ma fille a fait ça pendant des années, donc elle est bien française. Bon, mais c'est pas ça le problème. Le problème, les métiers en tension, c'est les poids lourds, c'est évidemment l'hôtellerie, la restauration, etc. Et ce sont des métiers très durs, pas très valorisés socialement. Et dire, écoutez, comme il manque 200 000 postes dans la restauration, on va vous mettre des immigrés. Non, parce que en plus, la deuxième raison qui me fait que je n'aime pas cet article 3, c'est que ça revient, c'est une prime à l'illégalité, puisque c'est une double illégalité. On va régulariser des gens qui sont dans l'illégalité et des employeurs qui sont eux aussi dans l'illégalité. Et tout ça pour avoir plusieurs milliers d'immigrés en plus chaque année. Non, franchement, je trouve que c'est pas le moment, quoi.
Luc Ferry, Esprit Libre du lundi. On passe à toute autre chose tout à l'heure pendant la revue de presse. Vous écoutiez attentivement Augustin Lefebvre évoquer les jeux vidéo qui s'épanouissent sur des écrans, oui, quitte à devenir parfois des œuvres d'art ou être répertoriés par des musées. Gabriel Attal a parlé concernant les écrans, oui, vendredi ou jeudi, la semaine dernière. Il a parlé de catastrophe sanitaire et éducative.
Je pense que c'est à la fois vrai et superficiel, si je peux me permettre. Voilà, vrai parce que c'est une évidence. Bon, on sait très bien que les écrans peuvent entamer les écrits, pour reprendre un thème qui avait été mis en exergue déjà depuis 20 ans par des sociologues ou par des philosophes. Bon, mais en même temps, les écrans ne sont que l'épiphénomène, la partie très superficielle, la partie émergée de l'iceberg du capitalisme d'innovation. Ce qui a déconstruit tout au long du XXe siècle les valeurs traditionnelles, c'est le capitalisme d'innovation. Et d'ailleurs, au fond, c'est ce qu'avait déjà dit Patrick Lelay très courageusement quand il avait dit finalement mon métier, donc le patron de TF1, ça consiste à accorder aux chefs d'entreprise des temps de location de cerveau vide. Et donc le capitalisme d'innovation, il a été, et le capitalisme mais toujours d'innovation, Schumpeter a raison. Il a déconstruit les valeurs traditionnelles, je vais vous dire pourquoi. Et il n'y a rien de plus traditionnel que la grammaire et la politesse. C'est les deux môles de tradition, c'est les deux patrimoines dans l'éducation.
Donc l'iPhone contre les bonnes manières.
Mais bien sûr, et Picasso aussi, et l'art contemporain aussi. Pourquoi ? Parce que l'art contemporain n'est que la superstructure du capitalisme moderne. C'est l'art contemporain ne fait que mettre en scène la logique de l'innovation et de la déconstruction.
Comment on dépasse cette tension entre capitalisme d'innovation et préservation de ce qui mérite d'être préservé ?
Eh ben, il faut devenir néo-républicain en matière d'éducation et d'enseignement. Il faut revenir aux vraies valeurs. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Et je vous explique, la phrase pour moi la plus fondamentale, je vais vous la dire, c'est il fallait, et au fond je rejoins ce que disait Patrick Lelay, il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites pour que nos enfants entrent dans l'ère de l'hyperconsommation sans laquelle le capitalisme ne pouvait pas s'épanouir. Et les écrans ne sont que la superstructure, l'épiphénomène de cette histoire.
Luc Ferry, on vous retrouve lundi prochain pour Esprit Libre. On va se quitter avec Stairway to Heaven, l'introduction à la guitare. Je sais que vous adorez la guitare, Luc.
Oui, j'en ai vécu.
Il y a 40 ans, un des plus grands groupes de hard rock se séparait, c'était Led Zeppelin. On leur doit donc Stairway to Heaven. Et on ne dira jamais assez ce que le hard rock doit à la musique classique.
All it glitters is gold, and she's bought.